Est-ce que vous allez bien? Ce matin, pendant la louange, il y a pas mal de chants en fait qui parlaient de simplement ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Alors, je me suis dit, oh, mais en fait, je vais laisser David continuer. Vraiment, ces chants-là, c'était vraiment ce que Dieu avait mis dans mon cœur pour ce matin. Et ce matin, j'ai vraiment envie de vous parler de Ruth. Et en fait, je vais un peu balayer l'histoire de Ruth et je vais vous en parler avec ce que j'en ressors. Et puis, je me rends compte que Ruth, en fait, on peut faire beaucoup de parallèles avec notre propre vie. Ruth, c'était pas un David. Il s'est pas passé de trucs extraordinaires. C'était pas un Joseph parce qu'il n'y a pas eu des choses extraordinaires. Mais Ruth, elle a vécu des choses vraiment fortes avec le Seigneur. Mais c'était discret, en fait, ça s'est fait progressivement, ça s'est passé petit à petit. Donc, est-ce que vous êtes déjà demandé si Dieu était à l'œuvre dans votre vie? Si c'était toujours le cas, ou vous dire, bon, en ce moment, ça flotte un peu. Mais c'est vrai qu'on se pose la question des fois. Et quand on voit l'histoire de Ruth, on va rentrer un peu dedans, on se dit qu'elle a pu se poser la question de savoir ce que Dieu allait faire d'elle, comment ça allait se passer pour sa vie. Donc, on va y voir des miracles, on va voir des interventions divines venues du ciel. Et puis, on va voir comment Dieu il a agi subtilement pour guider deux femmes. Parce qu'on parle de Ruth, mais il y a aussi Noémie dans cette histoire. Et en fait, cette histoire-là, c'est un chemin qui parle de la restauration et puis de quelque part de la reprise d'une place, de rentrer, de retourner dans l'abondance, de retourner dans la maison du Père et de recevoir ses bénédictions. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour ces deux femmes. Et je crois vraiment que Dieu il a un projet pour chacune de nos vies, que de toute éternité, il a mis une destinée sur chacune de nos vies et qu'il a un plan parfait. Amen. Et ça, des fois, c'est difficile à comprendre parce qu'en fait, on se projette sur plein de choses et on prend le contrôle et en fait, on oublie que Dieu est Dieu. Et que aussi, quand on prend le contrôle, et ça, c'est le paradoxe, nos choix ont des conséquences. Et ces conséquences, après, elles peuvent nous amener à prendre plus de temps avant d'arriver à la destinée que Dieu a prévue pour nos vies. Mais Dieu est bon, Dieu est amour. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il permet, Seigneur, au travers de ça, au travers de nos difficultés, de nos épreuves et puis de nos choix qui parfois nous mettent dans des situations difficiles, il forme notre caractère. Et si en fait on désire plus que tout, c'est de le servir, de lui obéir, et si nous l'aimons profondément, bien Dieu il reprend les choses et il ramène dans ses projets. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de Ruth. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc, dans Ruth 1, 2 à 1, 5, on va peut-être juste le lire. Je vais vous le lire. À l'époque où les juges exerçaient le pouvoir en Israël, il y eut une famine dans le pays. Alors, un homme de Bethléem en Juda partit avec sa femme et ses deux fils. Ils allèrent habiter pour un temps dans les régions fertiles du pays de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie. Alors, dans certaines versions, c'est Noémie, dans d'autres, c'est Naomi. Bon. Peu importe, et ses deux fils Malon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour en Moab, Élimélec mourut et Noémie resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Une dizaine d'années plus tard, Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses enfants et de son mari. Ce premier chapitre, il nous montre quoi? Il nous montre qu'il y a un homme qui a vu la famine dans son pays et qui a pris une décision. C'est-à-dire que la peur a fait qu'il s'est dit « je ne peux pas rester dans mon pays, je ne peux pas rester avec mon peuple parce que j'ai peur, parce qu'il faut que j'aille ailleurs pour subvenir aux besoins de ma famille. » Quelque part, l'intention était bonne, mais qu'est-ce qui a motivé son cœur? C'est la peur. Et il est parti. Et il est parti dans un autre pays où les mœurs étaient très très mauvaises, on va dire. Il y avait beaucoup d'immoralité et il y avait beaucoup en fait de dieux, de faux dieux. Et donc cette nation étrangère était vraiment remplie de péché. Et en fait donc Élimélec a décidé de déraciner sa famille. de la maison du pain, parce qu'en fait, je ne sais pas si ici, à ce moment-là, ils vivaient à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et on peut vraiment se faire cette représentation-là qu'il a, il a déraciné sa famille et il est parti. Et de un, il a fait un choix. Il a fait un choix et en fait, il n'a pas eu assez confiance en Dieu pour pourvoir. Il a vu avec ses propres yeux. Et nous aussi, on fait des choix. On voit avec nos propres yeux et on oublie que Dieu, il pourvoit, que Dieu est bon. Donc voilà, première décision du père de cette famille, il déracine sa famille. Et puis direct, s'il décide autre chose, en fait, il prend une autre décision. Cette décision-là, c'est celle, en fait, d'accepter que ses fils se marient, avec des Moabites. Et donc, en fait, résultat, ses deux fils se sont mariés. Et bien évidemment, il y a eu des conséquences. Lui est mort. Et ses deux fils aussi. On y met un lien, on n'y met pas un lien, mais quelque part, en fait, quand on fait des choix, malheureusement, il peut y avoir des conséquences. Quand on prend des décisions, il y a forcément des conséquences. Et en fait, ce qui est assez fou, mais pas fou, c'est que les choix que je fais, en fait, je dois en assumer la responsabilité, il peut m'arriver des choses, mais les générations après peuvent aussi. Subir et vivre les choix que nous avons faits. Et ce qui s'est passé pour ce père, c'est que ses deux fils sont morts. Et résultat, en fait, on voit bien que Naomi, elle est complètement désespérée. Elle est seule. Elle est avec ses deux belles filles. Donc, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont accepté de vivre dans une autre culture. Et quelque part, en fait, ça ne pouvait pas convenir. On ne peut pas vivre dans le compromis. Merci. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais Dieu est bon. On est OK avec ça. La bonne nouvelle, c'est que Dieu restaure et qu'il est bon. On voit qu'effectivement, la famille, là, elle a été détruite par la décision d'un seul homme. Mais Dieu, il n'en a pas fini avec cette famille. Il n'en a pas fini avec ses veuves. Et Dieu a une espérance et un avenir pour chacun de nous. Dans les épreuves, dans ce qu'on peut vivre, Dieu a une espérance. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et dans ce livre de Ruth, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. C'est qu'à chaque instant, en fait, Dieu a une espérance, a un projet de vie. En tant que peuple de Dieu, nous avons le privilège unique de connaître sa volonté et de vivre sous son autorité. Il y a des moments où dans notre vie, on est dans une tempête. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on peut chercher sa volonté et lui faire confiance. Et au lieu de nous fier à nos propres forces ou nous fier à ce qu'on peut voir ou aux circonstances, il faut prendre la décision de se confier en Dieu. Parce que le plan de Dieu pour notre vie est préférable à celui que nous pouvons concevoir par nous-mêmes. Donc on va continuer. Et donc après, Ruth prend une décision. Donc c'est à partir du verset 6. Elle prend une décision et elle dit à ses belles-filles, « Rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. » Qu'il vous permette de rencontrer chacune un mari et de trouver le bonheur dans sa maison. Elle les embrassa et puis elle prend congé. Mais celles-ci pleurèrent abondamment et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ton pays. » Donc, je ne vous lis pas tout, mais au final, Naomi leur répond et voilà, elle leur dit « Mais non, mais restez avec votre famille. » Et puis, ça fait douter la première, mais Ruth répond au verset 16 « 16, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterrée. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. » Et à ce moment-là, c'est la conversion pour moi de Ruth. Elle a pris une décision dans son cœur. Elle a dit « Non mais voilà, maintenant j'ai décidé, je vais suivre pas que Noémie, mais surtout suivre son Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. » pourquoi Ruth part, Naomi part ? Naomi part parce qu'en fait, elle a appris que ça y est, l'abondance était revenue dans ce pays, à Bethléem, que ça y est, les dures années étaient passées. Et donc, elle décide de partir. Et elle se dit, j'ai plus rien à perdre, je pars. Et je vais juste vous parler d'abord, peut-être juste de la conversion, pardon, de Ruth un tout petit peu, et après je vais vous parler de l'attitude de Ruth, de Naomi, oh là là. Donc, le choix, les deux belles-filles veuves décident de partir avec Naomi, et puis en fait, en chemin, donc elles avaient commencé à partir, et en chemin, en fait, Naomi confronte un peu ses belles-filles et puis leur dit, voilà, mais partez pas avec moi. Et Ruth prend vraiment cette décision de partir. Et à ce moment-là, effectivement, sur le chemin de Bethléem, il y a cette conversion de la jeune Moabite. Donc c'est la conversion de Ruth. Et je voulais juste faire le parallèle avec la démarche des Thessaloniciens décrite par Paul dans le verset 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai, vivant et vrai. En fait, c'est vraiment ce qu'elle a fait, Ruth. Elle a vraiment décidé de lâcher ses anciens dieux, lâcher cette culture qui n'était pas saine pour aller rentrer dans la maison de Dieu et servir Dieu. Et ça représente quand même l'ensemble, en fait, ça montre bien, là, ça a une dimension beaucoup plus grande, puisqu'en fait, ça représente toutes les personnes qui ne sont pas du peuple juif, qui peuvent, en fait, recevoir une conversion, puissent vraiment recevoir Dieu dans leur cœur, dans leur vie. Donc, je trouve que ça, c'est super. C'est comme un clin d'œil que Dieu dit à ce moment-là. Il dit, mais regardez, en fait, je suis mort, point. Jésus n'était pas encore mort, mais il dit, mon amour est pour tous. Mon amour est pour tous, pas que pour les Juifs, mon amour est pour tous. Donc les deux femmes continuent, et je pense que pendant le voyage, je pense que Ruth a dû poser beaucoup de questions à Naomi sur la foi. Je pense qu'il y a des choses qui se sont passées entre ces deux femmes, et je crois qu'elles ont dû s'encourager mutuellement, et je pense que plus, c'est encore ce que je pense, mais plus Naomi parlait, je pense, de sa foi à Ruth, plus elle était fortifiée dans sa marche. Et plus, c'était comme si Dieu préparait aussi son cœur pour revenir dans la maison du pain. Et qu'est-ce qui se passe au moment, en fait, où elle arrive ? À ce moment où elle arrive, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que Noémie, elle était connue. Les gens, ils l'attendaient. Et tout de suite, ils ont su qu'elle revenait et ils étaient là. Et Naomi, pour moi, elle a fait comme, en fait, le fils prodigue. Quand elle est arrivée, elle s'est humiliée. Elle a dit, mais m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, qui veut dire amère. Et en fait, elle s'est ouverte, elle s'est mise à nu, et elle a simplement dit, je reviens, mais je reviens faible, pauvre, et en fait, elle cache rien. Et ça m'a fait un clin d'œil avec ce fils prodigue qui arrive. De toute façon, lui, il ne pouvait rien cacher. Là, pour le coup, il n'avait plus rien, etc. Et en fait, Naomi, elle a eu la même attitude. C'est-à-dire qu'elle est revenue dans la maison du père. Elle est revenue vers des gens qui la connaissaient, qui l'avaient vue forte, stable, avec un mari, qui avait un statut. Et puis elle revient, en fait. Et en fait, elle revient avec un cœur sincère, avec un cœur humble. Et en fait, elle dit simplement, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. Mais voilà, je reviens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est son honnêteté. Et ça m'a fait penser à nous, aujourd'hui. Est-ce qu'on ne se met pas 15 000 masques, rien qu'entre nous, alors qu'on est entre frères et sœurs, ou tous les jours, ou voilà, ça va plus vite de dire que je vais bien, plutôt que de dire que non, j'ai besoin de prière, ou que je vis des choses difficiles. Alors, on n'est pas besoin de s'étaler à chaque moment, mais est-ce que je suis assez transparent avec mes frères et sœurs ? Est-ce que je suis assez honnête dans la maison de Dieu pour pouvoir partager ce que je vis aujourd'hui ? Et cette honnêteté, cette vérité, parce qu'en fait, c'est une vérité aussi qu'on ose dire, ça va amener quelque chose dans nos vies, c'est-à-dire que ça va amener simplement la bénédiction de Dieu parce qu'on est honnête vis-à-vis de nous et puis vis-à-vis des autres. Mais c'est comme un positionnement aussi, simplement savoir dire, bah non, c'est pas OK aujourd'hui, c'est pas OK dans ma vie. Et j'ai besoin de mes frères et sœurs, j'ai besoin de l'Église, j'ai besoin du corps. On a besoin les uns des autres. Et Ruth, en fait, Naomi, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de sa famille. Elle avait besoin de retourner à Bethléem et de retourner dans cette maison du pain. Retourner, en fait, dans la culture, dans ce que Dieu, en fait, là où Dieu se révèle. Et alors, encore, pas un hasard, mais c'est comme ça. Le déclic de Naomi et de Ruth pour revenir s'est fait et c'était le temps de la récolte. Donc on avance, voilà, elles arrivent et puis c'est la récolte. Dieu fait bien les choses, encore une fois. Mais vraiment, je trouve que dans ce livre, c'est que Dieu incognito. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans certains livres, c'est flagrant, c'est énorme. On ne peut pas dire mais autre chose que « mais Dieu a agi, et puis il était là, et puis... » Et là, en fait, c'est plein de petites choses. Et je trouve que ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut vivre, nous. C'est-à-dire que soit on est attentif à ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, au quotidien, les petits trucs. Il est là. Il est là à ce moment-là. J'ai cru que non, mais il était là. Et c'est lui qui a permis que je passe dans ces... Et en fait, Ruth, c'est ça. Elle vit plein de petits moments, plein de petites étapes. Elle est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et en fait, elle va aller dans le bon champ. Il devait y en avoir des champs. Mais elle a choisi un champ, en particulier sans en parler avec Naomi, puisque Naomi est au courant après. Et en fait, elle va glaner. Donc, en fait, je dis beaucoup en fait, j'en suis désolée. Elle va contribuer à apporter la nourriture à la maison, puisque sa belle-mère est vieille et que bah elle peut plus, je pense, travailler. Et donc, elle décide de prendre vraiment la responsabilité d'apporter quelque chose dans cette maison. Et la loi en vigueur chez les Lévites, c'était que les moissonneurs avaient ordre de ne pas glaner tout le champ, mais de laisser du surplus aux pauvres. Donc, Ruth s'est engagée dans le dur labeur de la cueillette des restes, mais elle faisait aussi preuve d'une grande humilité, parce que qui allait derrière les moissonneurs, c'était les pauvres, c'était les gens qui n'avaient plus rien. Et en plus de ça, elle, c'était... la nouvelle étrangère, c'était pas, elle n'est pas du peuple, elle n'est pas comme nous. On ne la connaît pas. C'est quoi son histoire? Et alors, vous n'imaginez pas les potins, parce que forcément, il y en avait. Donc, il y a dû avoir pas mal d'histoires sur pourquoi elle est là, et c'est qui, et machin. Oui, et ah là là, mais bon, bref. Elle a bien mérité ce qui lui arrive, et blablabla. Bon, vous imaginez bien, il y a toujours des gens qui sont bien intentionnés. Mais en fait, elle est restée humble, elle s'est dit « Non, il faut que j'aille, il faut que je fasse ma part. » Elle ne s'est pas posé 15 000 questions, elle ne s'est pas dit « Oh là là, mais ça va être compliqué. » Enfin, elle se l'est peut-être dit, mais en tout cas, elle l'a fait. Elle a agi. Elle n'a pas attendu que les jours soient meilleurs. Elle ne s'est pas cachée dans la maison de sa belle-mère jusqu'à ce que ça aille mieux, jusqu'à ce que peut-être elle se fasse des copines. Non, elle a été directe, elle a été dans un champ et elle a été glanée, elle a été ramassée de la nourriture. Et donc, dans le chapitre 2, on voit aussi l'arrivée, l'entrée en scène, entre guillemets, de Boaz. Boaz, qu'on peut, on peut le voir comme le libérateur. Parce qu'en fait, il peut symboliser aussi, tout au long de ce livre, Jésus, notre rédempteur. Parce que, en fait, Boaz, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener la libération sur Naomi et sur Ruth. Il va amener la protection. Et il va amener l'abondance. Et qu'est-ce que fait Jésus pour nous? Il amène la libération, il amène la protection et il amène l'abondance dans nos vies. Il faut vraiment voir aussi cette image-là, ce contexte-là. Le prénom Boaz, ça veut dire force. Et donc, Boaz, qui était-il? Il était plus âgé que Ruth. Il avait un bon statut, il avait une position privilégiée au sein de la communauté hébraïque. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est un homme de Dieu. Et Boaz, et ben en fait, il repère Ruth dans son champ. Il se renseigne à son sujet, il demande de rester et il s'assure quoi? Qu'on prenne bien grand soin d'elle. Donc c'était un patron juste qui aimait ses ouvriers et qui prenait soin d'eux. Et là, on voit sa bonté. On voit que Boaz, c'était quelqu'un de bon. Et il va reconnaître le cœur de Ruth. Il va reconnaître que c'est quelqu'un qui a un cœur intérieur beau. Il le dit plus tard. Et il veut, en fait, il veut pouvoir la protéger. Et il le dit, oui, je veux pouvoir mettre ma protection sur toi. Je veux pouvoir être là pour toi et pour ta belle-mère. Parce que tu as un cœur bon, tu as un cœur juste. Et Dieu, c'est pareil. Il veut ça avec nous. Il veut pouvoir nous protéger, il veut pouvoir être là, il veut pouvoir répondre à nos besoins. Et il faut que, de notre côté, en fait, on soit juste, on fasse ce qui est bon, ce qui est juste, même si on ne voit pas, même si on ne comprend pas pourquoi je vis ça. Mais en fait, il faut faire aussi, il faut avancer. Attendons-nous à ce que Dieu déverse sur nos vies bien plus que nous pouvons espérer ou imaginer, parce que c'est son plan. Il veut que nous soyons remplis de son esprit, que nous soyons solides et remplis d'espérance. Et je crois vraiment que Ruth, elle était remplie d'espérance. Même si elle ne voyait pas tout, même si elle ne comprenait pas tout, quand elle rentre dans la maison de sa belle-mère et que ça, elle lui dit « Mais où est-ce que tu as été glanée ?» Elle lui dit « Bah, j'étais dans tel champ. » Mais c'est un parent à nous. C'est quelqu'un qui peut amener sa protection sur nous. Et enfin, on se dit c'est assez extraordinaire et en fait, ben, elle continue, elle va glaner, elle va ramasser et je trouve ça super parce que elle se dit pas bon bah vu que c'est un parent, bah peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour nous donc on va attendre. Non, elle continue, elle retourne et on lui dit bien reste bien dans ce champ-là, reste là où il y a une bénédiction en fait et elle obéit. Elle a une attitude d'obéissance, Ruth. C'est une femme remplie de foi et d'obéissance. Donc dans Ruth 3, on arrive pratiquement vers la fin, elle va faire un truc fou. Franchement, je ne sais pas si c'est lié à la culture ou non, mais je pense que ce n'est peut-être pas lié à sa culture à la base. Mais quand Noémie lui dit « Un soir, tu vas te coucher » au pied de Boaz, t'attends. Si à un moment donné, il se réveille, tu te manifestes. Enfin, je ne sais pas, je trouve ça super bizarre. Aujourd'hui, c'est vraiment particulier de s'imaginer ça. Mais elle obéit à Naomi. Elle se prépare, elle se fait belle, elle se parfume. Et en fait, elle attend simplement le bon moment et elle se couche au pied de Boaz et elle attend qu'il se réveille et d'un seul coup, voilà, il se réveille et puis cette situation-là, pour lui, ça le remplit en fait d'honneur quelque part. Ça montre bien qu'elle cherche sa protection parce qu'elle s'est allongée à ses pieds. Donc il y a toute une symbolique, je pense, dans leur culture, dans cette culture-là. Mais je trouve ça assez fort de se dire, nous aujourd'hui avec notre culture, si on nous demandait ou si Dieu nous demandait de faire un truc pareil, ou si ma belle-maman me demandait un truc pareil, bon bref, je ne sais pas comment je réagirais. Mais en fait, son cœur était doux, obéissant, humble. Et en fait, c'est ça qui fait que le caractère de Ruth était vraiment formé par Dieu. Et le fait que son caractère soit malléable entre les mains de Dieu et qu'elle était soumise, en fait, aussi à ce que Noémie pouvait lui demander ou lui dire, bah, Dieu pouvait agir. Dieu pouvait amener sa bénédiction et son plan pouvait avancer. Et c'est pareil pour nos vies encore. Si on est dans l'obéissance par rapport à ce que Dieu nous demande, si on est dans la soumission par rapport aux autorités qui sont sur nos vies, et si on est vraiment pas dans la paresse, mais qu'on agit. Parce que la paresse, c'est un vrai danger, mais bon, c'est une autre parenthèse. Mais en tout cas, que vraiment, on est au quotidien dans ce que nous avons à faire, pas plus, pas moins, mais que nous allions, que nous faisions ce que nous avons à faire, eh bien, la bénédiction de Dieu vient. Et même s'il y a des épreuves, le plan de Dieu prend forme et s'accomplit. Même si on ne voit pas, il s'accomplit progressivement. Alors souvent on dit que le caractère est ce que l'on est quand personne ne nous regarde. Est-ce que mon caractère est similaire le dimanche matin ? de celui quand je suis chez moi avec mes enfants et mon mari. Venez me voir. Mais c'est assez fou de se dire que on peut être complètement différent quand on est tout seul ou quand on est vraiment avec des personnes qu'on a dans notre quotidien. Et puis, dans notre travail ou les dimanches, il y a le côté où on veut paraître, le côté où on met des masques. Et en fait, il faut vraiment, vraiment qu'on soit avec le caractère de Dieu. Et tant qu'on aura des masques, tant qu'en fait on aura dû paraître ou qu'on ne sera pas pareil à chaque moment, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre vie. Il faut qu'on soit simplement nous-mêmes tout le temps. Parce que déjà, d'une, c'est épuisant. Et puis de deux, bah en fait, ça montre bien que notre caractère, il n'est pas encore transformé par Dieu. Mais Dieu est bon, il veut nous transformer, il nous aime. Mais vraiment, je pense que c'est important ça de se dire que, bah, Seigneur, je veux être comme Ruth. Je veux que mon caractère, Seigneur, tu le formes, malgré les épreuves, malgré ce que je peux vivre, malgré la tristesse. Enfin, on a chanté plein de chants comme ça ce matin. Et en fait, bah, Seigneur, je te suivrai. Et Ruth, elle a fait ce choix-là. Elle a dit, je te suis, je quitte tout, je quitte ma culture, je quitte mon pays, je quitte ma famille. Mais Seigneur, je te suis, parce que je sais que c'est là qu'il y a la bénédiction, je sais que c'est juste. Et Ruth, elle ne saura jamais qu'elle est l'arrière-grand-mère de David. Elle ne le sera jamais, mais elle est rentrée dans le plan parfait de Dieu. Donc, il faut être des hommes et des femmes vertueux. J'aime bien ce terme. Il faut qu'on agisse avec foi lorsque l'espoir semble être perdu. Donc, quand il n'y a plus d'espoir, entre guillemets, avec nos yeux physiques, rentrons dans la foi et ça va nous faire grandir. Et on va, effectivement, puisqu'on va vivre des épreuves, et ben on va vivre des opportunités pour faire grandir notre foi. Et le dernier chapitre donc, de Ruth, c'est, je l'ai appelé, l'issue favorable de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Ruth s'est allongée au pied de Boaz, et puis il lui dit, je vais aller régler cette affaire parce que je veux pouvoir étendre ma protection sur toi, mais un parent plus proche a le droit sur toi, sur aussi des biens, puisqu'il y avait un champ aussi. Et il faut d'abord que j'aille régler cette situation avant de pouvoir t'épouser et puis te prendre pour femme. Et on voit quoi encore ? On voit Boaz qui est juste, qui fait les choses correctement et qui fait par étapes. Et des fois, nous, en fait, on reçoit une parole. Bon, j'exagère, j'extrapole. Hein. Voilà, on reçoit une parole, je ne sais pas, un truc fou. Demain, je t'envoie en Afrique. Alors demain... C'est quand demain ? Bref. Et puis, bah, bien évidemment, voilà, on se dit, bah, ça y est, j'ai reçu ça. J'ai vraiment la conviction. Hein. J'ai la conviction que demain, j'irai en Afrique. Mais en fait, est-ce que vous pensez que c'est possible que... Alors, Dieu est grand, il peut faire des choses extraordinaires et demain, je peux aller en Afrique. Ça, c'est sûr. Mais souvent, Dieu, il est sage, il est bon et il met des étapes. Je peux avoir reçu que j'irai en Afrique. Mais souvent, Dieu, en fait, il sait ce qu'il fait et il le fait bien. Et en fait, Boaz, il savait qu'il aurait pu très bien dire tout de suite à Ruth, « Mais oui, je t'épouse. Allez, demain, c'est bon, c'est fait. T'es une femme formidable, je t'épouse. » Mais en fait, non, il s'est posé et il a reçu de la sagesse aussi pour établir les choses progressivement. Et Dieu, il ne nous demande pas d'être fou tout le temps. Alors, des fois, il nous demande de faire des choses folles. Mais il faut aussi, en fait, qu'on soit sage et qu'on fasse les choses avec toutes les étapes. Et donc, bah, résultat, Boaz, il part aux portes de la ville. Il prend des témoins, il faut une dizaine, quelque chose comme ça. Et puis, il commence à parler avec le parent plus proche. Et là, on voit que le parent plus proche, en fait, il était intéressé par le champ. Mais alors, dès qu'il a su qu'en plus, il y avait une femme, eh ben non merci, hein. Et c'est assez drôle parce que, en fait, même Boaz, la façon dont il propose le marché, il est stratégique. Dieu, il nous dit pas que parce que, en fait, on est chrétien, faut pas être stratégique. Donc, lui, il parle d'abord du champ. juste du champ. Et puis quand il voit qu'il est intéressé, parce que il y a un, ouais, au niveau pécunier, c'est intéressant, je vais pouvoir faire des bénéfices. Mais au fait, je t'ai pas dit, il y a aussi Ruth, donc une de nos, de un parent qui, voilà, enfin, il faut te marier avec elle, etc. Oh, t'as ça le coup, non, ça va, j'en veux pas, j'ai pas besoin, etc. Bah, je suis désolée, moi, pour moi, Boaz, il a fait une petite stratégie, il a mis en place une stratégie. Il a d'abord happé le poisson, et puis après, en fait, le gars s'est rendu compte que, bah non, il y avait peut-être un petit peu trop, ça avait peut-être un petit peu trop lourd dans la balance, etc. Et là, c'était juste un petit cadeau pour vous dire, Dieu, il nous dit, pas forcément, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être bête, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit tout accepter, etc. Il nous demande aussi d'être stratégique, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on dit pas, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait pas. Et il faut vraiment utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée, les compétences que Dieu nous a données, et que vraiment on puisse, ouais, avoir un statut, avoir une logique, et puis faire simplement comme Dieu nous a demandé. Et Boaz, il a fait par étapes, et il a eu la stratégie d'abord de parler du champ, et puis après, bah, de Ruth. Mais Dieu est bon, il avait un plan, et ça a permis que Boaz puisse revenir, et puis rachète, entre guillemets, Ruth. Comme, en fait, Dieu a racheté son épouse. En fait, il y a vraiment ce parallèle aussi, toujours, je veux dire, vraiment du rédempteur. Et donc, pour finir, bah vous savez tous, enfin vous connaissez tous l'histoire, je pense, Ruth a enfanté. Mais ce qui est drôle, ou pas, j'en sais rien, mais elle a été mariée quand même 10 ans à son premier mari, et elle n'a pas enfanté. Et là, deuxième mariage, elle enfante, elle a un fils qui s'appelle Obed et donc qui deviendra le grand-père du roi David. Elle ne le saura jamais, mais ce qu'elle sait, c'est que Dieu a béni, a agi dans sa vie et en fait le plan parfait de Dieu était là. Et que de la pauvreté, du deuil, en est sorti quoi ? L'abondance, l'amour de Dieu et la consolation. La rédemption. Et cette femme-là, moi, ce livre-là, je vous encourage encore à le relire, mais je pense que Dieu veut nous parler à chacun, dans des domaines différents. Mais il y a tellement de parallèles à faire par rapport à nos vies. Et Dieu veut tellement nous montrer combien il nous aime. Et que même si on vit des choses difficiles, il est là. Et que ses projets tiendront bon pour nos vies. Même si je ne vois pas derrière, même si je ne verrai peut-être jamais, Ruth n'a jamais su que son arrière-petit-fils était David et qu'il a fait de grandes choses. Mais le plan de Dieu est assez extraordinaire. Et il s'étend au-delà de juste notre vie. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne des fois aussi. C'est qu'on pense qu'il faut que Dieu fasse de grandes choses avec nous et que je puisse les voir à la fin de ma vie, que je puisse balayer en disant « Voilà, Dieu a pu accomplir des œuvres extraordinaires au travers de ma vie parce que j'ai vu ça, j'ai fait ça, nanana, etc. » Mais les expériences et puis ce que tu as fait d'extraordinaire, c'est l'obéissance, c'est l'amour du prochain, c'est être là où tu dois être, avec les personnes que tu dois être, c'est délivrer le message que tu dois délivrer, c'est simplement en fait avoir le caractère de Dieu. Et quand Dieu il t'utilise, que tu sois en train de faire le ménage à l'église, que tu sois en train de prendre un bus, ou que tu sois, je sais pas, à faire quoi que ce soit, si tu es là et si tu fais ce que Dieu a prévu pour toi, tu es dans son plan et il te bénit. Et ça va avancer, tu vas grandir en lui. Dieu a utilisé une Moabite, une étrangère, qui vit dans un pays où on adorait d'autres dieux, pour devenir l'arrière-grand-mère de David. Il utilisera chacun de nous. Chacun de nous. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai beaucoup parlé à la fin de Ruth, de son obéissance, après de l'accomplissement de l'abondance au travers de son mariage, de toutes ces choses-là. Mais je pense sincèrement que Naomi, qui restait à la maison, était vraiment une femme de prière. Je pense sincèrement que Naomi, elle était une conseillère juste pour Ruth. Et je crois sincèrement que Naomi, en fait, était là aussi pour accueillir Ruth le soir, pour parler avec elle et pour, quelque part, poser les choses de la journée, pour la conseiller. On l'a vu plusieurs fois, elle lui a dit ce qu'elle devait faire. Reste dans ce champ, va le voir tel soir, prépare-toi, etc. Et je crois vraiment que on oublie souvent que, eh bien, dans nos vies, on a des Naomi. Dans chacune de nos vies, on a des Naomi. On a des gens qui se tiennent derrière, cachés, mais qui prient et qui nous conseillent et qui sont là. Et je pense qu'on peut en trouver beaucoup dans cette salle, parce que dans l'Église, dans le peuple de Dieu, on est là pour prier les uns pour les autres. Je le vois aussi avec les veilleurs. Il y a plein de sujets de prière qui viennent des uns et des autres. Et en fait, il y a des prières qui montent pour justement nous encourager, nous prier pour certaines personnes, pour amener vraiment une issue favorable, la grâce de Dieu sur certaines situations. Il y a des Naomi dans cette église et nous sommes aussi bénéficiaires de ces Naomi, de ces gens qui prient. Et il faut qu'on ait vraiment conscience qu'on n'est pas tout seul, qu'on est vraiment avec d'autres à côté de nous qui nous soutiennent. Et pour ça, il faut aussi oser dire « j'ai besoin aussi ». Et je vais montrer ce dont j'ai besoin, je vais montrer qui je suis, j'ai rien à perdre. En fait, c'est ça que j'aime, c'est que Naomi, elle a compris qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle avait déjà tout perdu. Non mais, j'espère que vous n'allez pas attendre d'avoir tout perdu pour vous dire « en fait, j'ai plus rien à perdre, Jésus, je veux être simplement, je veux me montrer telle que je suis ». Mais c'est ce qui s'est passé pour Naomi. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle est retournée à la maison et elle a simplement dit « voilà, voilà qui je suis maintenant. J'ai besoin de retourner dans cette maison. J'ai besoin de me sentir aimée. » Et elle s'est reconstruite. Et c'est pareil avec l'église locale. L'église locale, elle permet à ça. Elle permet en fait à ce qu'on soit réconcilié avec peut-être des choses que nous avons vécues, mais qu'on soit dans un lieu de repos, qu'on soit dans un lieu où on est aimé et où on peut grandir. Donc c'est hyper important en fait. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Ah, peut-être, si, j'ai fait le tour. Quand j'ai fait ce message, c'était vraiment, j'avais envie de vous faire comprendre à quel point en fait on a un projet dans nos vies. Enfin, Dieu a un projet, un avenir, une espérance pour chacun de nous. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Et pour ça, il ne faut pas qu'on oublie que Dieu il a besoin d'être avec nous aussi, d'être en tête à tête avec lui. À ce moment-là, je pense que Ruth devait aussi, pendant qu'elle travaillait, parler à Dieu. Elle devait sûrement ça devait être compliqué parce qu'il devait faire chaud aussi. Ça ne devait pas être évident, mais je crois vraiment qu'elle avait un cœur avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu. Et donc, c'est hyper important qu'on puisse faire ça. Et vivre ça. Prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Mais même si ce n'est pas le cas, Dieu redirige. Il redirige toute chose si nos cœurs sont malléables entre ses mains. Et si en fait on décide de lâcher prise, de lâcher le guidon, de ne plus prendre le contrôle. Et de laisser Dieu prendre le contrôle. Amen. Eh bien, je vais prier, je vais vous demander de vous lever. Puis on va prier ensemble. Et Seigneur, on veut vraiment te remettre nos vies. Je veux te remettre ma vie, Seigneur. Et Père, je ne veux pas être déracinée de ton royaume. Je ne veux pas être déracinée de ta famille, de ma famille, Seigneur. Je veux, Seigneur, pouvoir être dans ton royaume, Seigneur. Et je veux, Seigneur, pouvoir vivre dans cette famille que tu m'as donnée de l'Église Amour, Foi, Espérance. Seigneur, je te prie pour que chacun puisse vraiment recevoir quelque chose de particulier par rapport à ce message, par rapport à la vie de Ruth, Seigneur, mais qu'il puisse comprendre quelque chose par rapport à ce qu'il vit en ce moment, parce que, Père, tu es là, tu réponds, tu agis, parfois de manière extraordinaire et visible, parfois de manière incognito, Mais Seigneur, on veut avoir cette foi qui grandit. On veut avoir cette confiance en toi, Seigneur. On veut dire que oui, il est sûr et certain que tu as des projets et un avenir sur ma vie. Et je ne veux pas, Seigneur, douter, je ne veux pas reculer, mais je veux avancer avec toi. Malgré les épreuves, malgré ce que je vis, Seigneur, tu es là. Et je te prie, Seigneur, pour que je sois aussi libre d'exprimer auprès de mes frères et sœurs qui je suis pleinement. Merci Seigneur parce que tu nous transformes, tu nous façonnes. Et Seigneur, je te prie pour que cette semaine, on puisse être vraiment de ce Seigneur qui brille Seigneur, qui amène Seigneur ton esprit de vie et que nous puissions vraiment attirer d'autres à toi Seigneur. Amen.